Musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Mercredi, Je vous dis pas, bonjour, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est en compagnie de Martine. Bonjour Martine.
Bonjour Roland, bonjour Fanny, bonjour tout le monde.
Et de Fanny du cinéma, il est bonjour Fanny.
Bonjour.
Sans oublier Philippe, bonjour Philippe.
Bonjour.
Et on commence avec toi, avec Opération Casse-Noisette.
Ouais, c'est un film américain, un film d'animation, hein, réalisé et coécrit par Cal Brunker. Alors on retrouve eh bien toute l'équipe de petits écureuils, avec Solo notamment à la tête, qui reviennent depuis leur dernière aventure. C'était en 2014, hein, le premier volet. Eh bien, tous les animaux du parc, avec Solo et toute sa bande, sont heureux. Voilà, ils mangent à leur faim grâce au magasin de noix. Et ils sont installés carrément au sous-sol du magasin. Dans le premier volet, ils se sont un peu attaqués à tout le monde pour réussir à manger à leur faim. Voilà. Et là, ils ont réussi. Donc, Solo est très apprécié des autres. Tout se passe bien. Jusqu'au jour où, eh bien, malheureusement, le magasin de noix va exploser.
Ah, dommage, plus de noix.
Bah oui.
Ah oui,
ah, c'est bête.
C'est ballot.
Alors, du coup. Eh bien, tout le monde doit déménager. Alors, ils sont tous déménagés dans un parc qui n'était pas très loin, un autre parc. Alors, ils sont partis et commencent à s'emménager tranquillement. Et Vlatipak arrive, un riche promoteur immobilier qui veut faire de ce parc un parc d'attractions.
Et pourquoi pas ?
Voilà, pourquoi pas. Là, c'était beau, il y avait des arbres et tout, c'était tout, de la verdure, c'était tout tranquille. Et alors là, il veut tout raser, faire un parc d'attractions, tout ça. Alors du coup, ils vont pas redéménager une autre fois, hein, les animaux, ça suffit. Ils vont s'unir tous ensemble pour empêcher les plans de cet homme, avec des nouveaux amis qui vont trouver sur place des milliers de petites souris blanches expertes en kung-fu.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Oui, ça peut arriver.
Bah, ça peut arriver.
On ne sait pas.
Donc, des souris blanches qui font du kung-fu.
Oui, bah, pourquoi
oui.
pas ?
Ça existe, ça, Philippe.
Eh bien, ça existe, c'est dans Opération Casse-Noisette.
Exactement. Le deuxième volet, ce mercredi au cinéma, il est dès 16h, le vendredi 3 novembre à 16h, ou bien le dimanche 5 novembre également à 16h. Épouse-moi mon pote, Philippe, c'est pour la suite. C'est pas une déclaration. Hein.
Ah, j'ai eu peur.
Hein. Non, non, tout va bien.
Oui, pas.
Je crois que ça va pas être possible.
Non, non, c'est une comédie française réalisée par Tarek Boudali. C'est son premier long métrage d'ailleurs, Tarek. Il fait partie de la bande à Fifi, hein, avec Philippe Lachaud notamment, qui ont joué dans Babysitting. Lui, il jouait le rôle de Sam, Tarek Boudali, et puis le rôle de Mehdi également dans Alibi.com. Alors, on le retrouve dans ce film avec également Philippe Lachaud, bien sûr. Charlotte Gabris et Julien Arrouti, qui étaient tous les deux également dans Babysitting. Il y a David Marseille du Palmacho, il y a Philippe Duquesne, Zinedine Soualem, et puis plein d'invités également. Il y a une youtubeuse, il y a quelqu'un qui a fait Koh-Lanta même, qui est dans ce film. Voilà, voilà, ils ont réuni un peu tous leurs potes, tous les gens qui les font marrer.
En gros, ça fume de potes.
Oui, voilà, voilà. Alors, c'est l'histoire de Yacine. Yacine est un jeune étudiant originaire du Maroc, et il vient à Paris faire des études d'architecture. Voilà, alors il a un visa étudiant. Voilà, tout se passe bien, il fait son année, et malheureusement, suite à un événement malencontreux, il va rater son examen, ce qui fait qu'il va perdre son visa. Eh oui, parce que voilà, quand t'as un visa étudiant, bah, tu fais des études, hein, voilà, si tu rates après, bah, plus de visa.
Au revoir.
Voilà, le problème, c'est qu'il va se retrouver il reste en France, mais du coup, il est en situation irrégulière.
Forcément.
Eh oui, forcément. Alors, il va chercher des solutions pour pouvoir rester en France. Et pour y remédier, il va avec son meilleur ami, ils vont se dire écoute, faut que tu te maries. Voilà, si tu te maries avec une Française ou un Français, tu deviens français. Voilà, donc du coup, tu peux rester.
Logique, très
bien. Oui, mais sauf que trouver quelqu'un pour se marier, c'est pas marrant.
Bon.
Alors du coup, il a demandé son pote en mariage. Voilà, tout simplement. Alors donc ils vont dire ça y est, tout est réglé, quoi, ça, ils sont mariés, voilà. Hein. Est-ce que c'est vraiment marié vraiment ou pas, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il y a un inspecteur qui est là sur leur dos un peu, qui leur met un peu la pression pour vérifier si justement c'est pas un mariage blanc, hein, exprès pour qu'il ait la nationalité française,
papiers, oui.
Voilà, ou si vraiment ils sont amoureux et tout.
Hein, on sait pas. D'amour, on voilà. ne sait pas.
Alors bon. Je vois déjà tout le monde un peu arriver là-dessus. Le film a été un peu accusé par un peu tout le monde sur les réseaux sociaux, un peu partout.
Bah, oh, ça a l'air très drôle.
D'homophobie. Bah oh. Oui, voilà. Et alors, le problème, c'est que, bah, il y a des clichés, c'est sûr. Voilà. Bon, ça parle de ça parle. Alors, est-ce qu'ils sont homo ou pas? Parce que, vu qu'ils se marient, mais est-ce que c'est blanc ou pas? Enfin, voilà. Il y a plein de questions qui ont été soulevées.
Faut voir
un peu
ça au
partout,
second degré, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, c'est de l'humour. Bah, après, si on peut plus rigoler de rien, bah, ça va être un peu plus dur. Bon, voilà. Après, bah, allez vous faire votre opinion. Hein. Si vous êtes un peu sensible à ces sujets et puis que vous savez que ça vous énerve, n'y allez pas. Hein.
Si vous aimez rigoler,
voilà.
Si vous avez aimé babysitting, allez-y aussi.
Ouais, voilà. Si vous aimez rigoler de tout, surtout. Parce que ouais, c'est vrai que c'est le même humour que babysitting, alibi.com, parce que c'est la même équipe. Donc voilà, essayez de, si vous avez vu ces films, essayez de transposer ça avec ce que je viens de vous raconter. Et puis vous allez voir un peu les genres de blagues qui va ressortir. Bon, c'est vrai que des fois, ça vole peut-être pas très haut. Hein.
Mais c'est ce qu'on aime aussi,
voilà.
Peut-être.
Et puis, alors il y avait un film là-dessus justement qui était 120 battements par minute. Voilà, qui
ça
était
n'a rien à voir.
Un peu tout. Bah oui, justement, c'était.
Fanny va faire des bons.
Non, mais justement, c'est ce que je disais, c'est un peu tout le contraire de ce film, en fait.
Ok.
Voilà, on a le bon côté, avec 120 battements par minute. Enfin, voilà ce que ça raconte un peu le vrai truc. Et puis, bah là où ça tourne, tout est tourné en dérision. Et voilà. Bon, allez vous faire votre propre opinion. Hein. Je sais pas si Fanny, tu l'as
pote,
vu.
Oui.
Non.
Un avis peut-être.
Non.
T'avais pas envie de donner ton avis sur ce film.
Non, j'ai même pas envie de le voir.
Bon, voilà.
Au moins ça c'est dit. Merci Fanny. Pose-moi mon
pote. Mais allez le voir quand même.
Exactement. C'est ce jour au cinéma. Il est dès 18h le samedi 4 novembre à 21h ou bien le dimanche 5 novembre à 18h au cinéma. Il est numéro 1. Fanny, c'est pour la suite.
On se souvient de Vénus Beauté Institut, sur la vie d'un institut et des esthéticiennes qui gravitent autour, que Tony Marshall avait réalisé en 1999 et qui avait reçu 4 Césars, dont celui du meilleur film. Cette fois-ci, la réalisatrice aborde un tout autre milieu. Emmanuelle DeVos, alias Emmanuelle Blaché, est une ingénieure brillante et volontaire qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient et c'est une guerre qui commence. À l'origine, la réalisatrice Toni Marshall avait une idée de série télévisée autour d'un groupe de femmes appartenant à un club féministe et qui traiterait de la place des femmes dans l'industrie, les finances ou encore la presse, mais elle n'a pas trouvé de diffuseur. Cependant, ce sujet lui tenait particulièrement à cœur au vu des grandes difficultés pour les femmes d'arriver au pouvoir en France. Donc elle a décidé de centrer un long métrage autour d'un seul personnage féminin et de sa difficile ascension vers le pouvoir. Raphaël Baquet, journaliste et grand reporter au Monde, a aidé Toni Marshall dans l'élaboration de son scénario et lui a permis de rencontrer plusieurs femmes qui occupent des postes haut placés dans des entreprises qui ont partagé leurs expériences, notamment ces petites humiliations subies au quotidien dans ce milieu essentiellement masculin, et leurs témoignages ont énormément nourri le parcours du personnage joué par Emmanuelle DeVos. Ce personnage peut paraître un peu caricatural, mais il est en fait le reflet des anecdotes collectées auprès de ces femmes rencontrées, la cinéaste ayant fait de nombreuses recherches afin de nourrir la crédibilité de son film. Autour d'Emmanuelle DeVos, parfaite dans ce film, parfois même comparée à Catherine Deneuve pour son incroyable présence, on retrouve d'autres acteurs qui excellent dans leur rôle, comme Richard Berry et Benjamin Biolay, très juste en homme menteur et séduisant, Suzanne Clément et Anne Azoulay, en femme au caractère bien trempé. Avec un tel sujet, impossible de ne pas voir dans la démarche de Toni Marshall la volonté de signer un film féministe et engagé, dénonçant la difficulté pour les femmes de se faire une place et de se faire respecter dans ces sphères de pouvoir au sexisme ambiant nauséabond. Mais c'est un film qui se veut positif et porteur d'espoir et qui ne souhaite pas victimiser le personnage d'Emmanuelle Blaché.
Numéro 1 à découvrir ce mercredi 1er novembre dès 21h au cinéma Élé ou bien le dimanche 5 novembre également à 21h. Zombilennium. Fanny, c'est pour la suite. Mais ça fait peur.
Tu fais bien le zombie.
Oui, tu trouves ? Merci, c'est sympa.
Enfin, un film d'horreur pour les enfants,
eh ouais.
Conseillé à partir de 7 ans.
Ah, je peux y aller, c'est cool.
C'est peut-être un film d'horreur, mais même s'il s'agit de monstres, il n'y a aucune scène choquante qui fasse vraiment peur. On sursaute juste de temps en temps, mais avec plaisir. Zombielenium est un parc d'attractions du nord de la France, à Valenciennes plus exactement, au cœur d'une région industrielle et un peu sinistrée. Hector, contrôleur des normes de sécurité dans les lieux publics, s'y rend pour une visite et découvre assez rapidement que les zombies, vampires, loups-garous, momies, squelettes et autres monstres que l'on y croise ne sont pas de simples humains déguisés, mais de vrais monstres. Alors qu'il prend la décision de fermer le parc, il est mordu par Francis, le vampire directeur, et se retrouve à son tour monstre et employé de Zombielenium. Le film a été réalisé par Arthur Depin et Alexis Ducor en animation 3D d'après les bandes dessinées du même nom d'Arthur Depin. Je vous conseille d'ailleurs de les lire, vous pouvez les trouver à la bibliothèque de l'Île-Dieu. L'univers graphique de la BD est respecté dans le film, il y a en revanche quelques différences scénaristiques. Pour la musique, les deux réalisateurs ont fait appel au chanteur du groupe Skip the Use, donnant au film un caractère très rock'n'roll collant parfaitement à l'ambiance assez déjantée du film, avec ses monstres Bad Boys et son directeur qui négocie avec le diable. Vous pouvez aussi regarder le clip de la chanson Nameless World de Skip the Use qui a été réalisé par l'équipe du film pour présenter l'univers graphique du projet. Les adultes apprécieront également Zombielenium, cette comédie familiale a des petits airs de lutte des classes et dénonce les inégalités sociales. On y parle par exemple des conditions de travail de ces monstres qui ont des contrats pour l'éternité, de grève et de lutte pour leurs droits de travailleurs, ce qui, transposé dans le milieu des monstres, devient très amusant.
Zombielenium, c'est le jeudi 2 novembre à 16h au cinéma Ilé, ou bien le samedi 4 novembre également à 16h. Le sens de la fête, Philippe, un film très drôle et un film français.
Ouais, beaucoup d'humour là, en
c'est
ce
très,
moment
très
aussi.
Drôle. Mais,
à part Épouse-moi mon pote, hein, on ne sait pas trop.
Monsieur, là, voilà. Du second degré
oui.
Pour Épouse-moi mon pote.
Ah ben voilà. Là aussi, c'est le sens de la fête, voilà, ça va faire rire tout le monde. Hein.
2 heures.
Voilà, pendant 2 heures, une comédie française d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Nos jours heureux, Intouchables, Samba, tout ça, c'est des films qu'ils ont réalisés et qui ont fait des cartons. Il y a Jean-Pierre Bacri dans ce film, Jean-Paul Rouve ou encore Gilles Lelouch. Et nous allons suivre Max, qui est traiteur depuis 30 ans. Voilà, il organise des mariages, des fêtes, enfin voilà, tout ce qu'il y a. Alors, il en a organisé plein. Là, il arrive un peu au bout de sa carrière. Et du coup, il va faire un gros mariage. Le mariage de l'année dans un château du XVIIe siècle. C'est le mariage de Pierre et Elena. Voilà. Donc, comme d'habitude, il a tout coordonné, Max. Hein, il a tout organisé. Il a sa brigade de serveurs, de cuisiniers, des plongeurs. Il a conseillé même le photographe, l'orchestre, tout ça. Il a arrangé un peu toute la déco, les fleurs et tout. Enfin, voilà, il a tout. Il a tous les ingrédients, hein, en même temps il est traiteur, il a tous les ingrédients pour que la fête se passe bien. Mais il y a toujours le mais qui arrive, hein, on plante le décor, voilà, tout va bien, mais il y a toujours un petit truc, le petit grain de sable qui va tout faire déraper, puisque le planning est tellement sur le fil, voilà, chaque chose est chronométrée à la seconde près, que le moindre truc va tout faire déraper, et bien sûr c'est ce qui va se passer, voilà.
Forcément.
Pour notre plus grand plaisir, tout va déraper, ça va aller de n'importe quoi, tout va partir en cacahuète comme on dit, et donc on va voir un peu les coulisses de ce super mariage complètement raté. Donc des préparatifs jusque à ce qui va faire déraper tout le mariage, mais on va se rendre compte que quand même tout le monde a le sens de la fête et que finalement tout le monde va rire et puis ça va bien se passer.
Et à la fin, voilà. Que se passe-t-il ?
Est-ce qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ?
Allez voir le sens de la fête.
Pas. Mais c'est très drôle, il y a plein de gags, plein de bêtises.
Le jeudi 2 novembre à 18h au cinéma, et les Kingsman, le cercle d'or, Philippe, c'est pour la suite.
Alors oui, là encore une comédie, mais comédie plus action, espionnage.
Premier volet était très sympathique.
Ouais, très bien le premier volet.
Très drôle en plus.
Voilà, très drôle. Il y a de l'action, alors c'est policier et tout, mais c'est tellement comique en même temps. C'est britanno-américain, c'est écrit et réalisé par Matthew Vaughn. C'est la suite de Kingsman, Service Secret, qui a été sorti en 2015, du même réalisateur. On retrouve donc dans ce film Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John, Jeff Bridges, Channing Tatum et plein d'autres encore, plein d'acteurs connus qui font des petites apparitions des fois aussi. Donc on retrouve Eggsy, hein, le Kingsman, un peu le personnage principal.
La star, quoi.
Voilà, qui écoule des jours heureux, voilà, avec la princesse Tilde, la princesse suédoise. Et des attaques vont survenir, des attaques simultanées qui vont détruire tout le quartier général des Kingsmen. Voilà, ils vont tuer tous les agents en même temps. Les seuls survivants, ce sera donc Exy, qui n'était pas là, et Merlin, qui sont amenés à rencontrer, du coup, alors qu'ils ne connaissaient même pas l'existence de leurs homologues américains. Voilà, alors c'est pas les Kingsmen, parce qu'il n'y a pas de roi, de king, c'est les Statesmen, voilà, puisqu'ils viennent des States, voilà.
Un petit peu facile sur ce
coup-là. Ouais, mais c'est drôle, c'est de l'humour anglais, donc c'est potache.
Mais ça fait bailler Fanny.
leur base de ces agents américains est située dans une distillerie de bourbon, voilà, dans le Kentucky. Et alors ensemble, ils vont s'allier, hein, les Anglais et les Américains, entre l'Italie, le Cambodge, ils vont se balader un peu partout et ils vont devoir affronter Poppy Adams, une trafiquante à la tête d'un cartel de drogue le plus puissant du monde, qui s'appelle le Cercle d'Or, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Kingsman, le Cercle d'Or, forcément. Alors voilà, on reprend un peu les mêmes ingrédients que le premier volet, hein, qui avait cartonné, des grosses scènes d'action, de l'humour également, très anglais aussi parfois, et puis...
So British.
Oui, ce qu'ils ont voulu réaliser, c'est les cascades qu'ils ont voulu faire le plus souvent en vrai, en fait, hein, sans effets spéciaux, numériques et tout, voilà, ils ont voulu essayer de faire le plus souvent les cascades en vrai. Alors du coup, ils ont trafiqué des voitures, ils ont construit des voitures exprès avec des gros moteurs et tout, des taxis anglais qui avaient des moteurs V8 à l'intérieur, enfin, des trucs un peu énormes. Et du coup, ils ont essayé de faire tout ça en vrai. Alors, ça marche très bien, voilà, les avis sont dans la moyenne. Voilà, alors ça cartonne moins que le premier parce que ce qui ressort, c'est que c'est un petit peu moins original et créatif que le premier.
C'est du réchauffé.
En même temps, c'est normal parce que c'était le premier, on n'avait jamais vu ça et c'était très drôle. Alors forcément, si on prend la même recette, c'est drôle pareil, mais voilà.
On s'y attend.
On a déjà un peu vu.
C'est ça.
Alors c'est ce qui revient un peu dans les critiques, mais voilà, ça n'en reste pas moins très drôle. Et le réalisateur a même révélé qu'ils envisageaient un troisième volet de Kingsman. Voilà. Ils ont même dit qu'ils aimeraient bien que ce soit Dwayne Johnson dans le méchant du prochain film. Et peut-être, ils ont évoqué également la possibilité de peut-être faire un spin-off sur les Statesmen, justement, leurs homologues américains. Alors ça en fait un peu beaucoup. Hein, un peu, alors je ne sais pas s'ils vont les faire, hein, mais voilà, ils ont envisagé ça. C'est sûr que quand quelque chose marche, on envisage tout de suite de faire plein de suites et plein de choses.
On tire sur la corde.
On tire sur la corde et, voilà, et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, ce deuxième volet est très drôle et plein d'action.
Le Cercle d'Or, Kingsman, à découvrir ce jeudi 2 novembre à 21h au cinéma Ilé ou bien le samedi 4 novembre à 18h. Martine, on poursuit avec l'école buissonnière.
L'école buissonnière, c'est réalisé par Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Valérie Carcenti, Jean Scandel et Éric Elmosnino. Alors, ce que j'ai lu et entendu, c'est que vous ne le regretterez pas. Vous ne regretterez pas d'aller voir ce joli conte. On passe d'un Paris d'avant-guerre, nous sommes en 1930, à une Sologne merveilleuse, mystérieuse et sauvage, jusqu'à un manoir et sa ferme, que découvre le jeune garçon Paul, qui n'a connu que les hauts murs et les dortoirs d'un orphelinat. Alors c'est sa quête d'identité, son initiation à la nature et à la vie, grâce au couple de fermiers qui l'accueille, et un braconnier sage, malin et amoureux de sa forêt. Alors on connaissait la passion de Nicolas Vanier pour l'exploration du monde, qu'il sait nous faire partager. Elle est à l'œuvre dans ce film qui entraîne Paul et les spectateurs dans l'admiration de la nature, des animaux et de ce lieu féerique qu'est la Sologne. Alors en somme, l'école buissonnière est un long métrage qui fait du bien, porté par une photographie éblouissante, une superbe musique signée Armand Amar qui colle parfaitement au film et on en sort émerveillé par les belles images de ce solognio de cœur et d'origine qui donne le premier rôle à la nature et aux animaux. Alors je ne vous cache pas cependant que certaines ont frôlé l'ennui et ne sont pas tombés sous le charme de ce joli mélo exotique et touchant, et encore moins du cabotinage des acteurs. Bon, il y a un peu de vrai, mais ceux qui ont lu dans leur enfance lointaine Le Grand Môle ou Le Petit L'Orphan de Leroy, eux, ils vont savourer et ils vont aller se balader en Sologne le week-end d'après.
L'école buissonnière, le vendredi 3 novembre, dès 18h. Fanny, on poursuit avec le Ciné-Club de ce mois-ci avec l'association Oya Film. Le film proposé, c'est Lumière.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de Thierry Frémaux en tant que délégué général du Festival de Cannes, mais c'est aussi le directeur de l'Institut Lumière à Lyon et président de l'association Frères Lumière. Autrement dit, le cinéma et son histoire ont peu de secrets pour lui. Il a réuni dans Lumière, l'aventure commence, 108 films tournés entre 1895 et 1905, de 50 secondes chacun, la durée étant déterminée par la longueur de la pellicule qui mesurait 17 mètres. Antoine, le père d'Auguste et Louis Lumière, était un industriel qui s'intéressait aussi à la peinture et à la photographie. Lors d'un voyage à New York, il a découvert le kinétoscope d'Edison, qui permettait à une seule personne à la fois de regarder des images animées. Il orienta ses deux fils ingénieurs dans des recherches en direction de la reconstitution du mouvement à l'image. Le 28 décembre 1895, au Salon indien du Grand Café à Paris, a lieu la première séance publique payante du cinématographe Lumière. C'est la première fois que des spectateurs assisteront à une projection collective de films. Il y avait pour l'occasion 10 films Lumière, notamment Le Jardinier, plus connu sous le nom de L'arroseur arrosé, Le repas de bébé ou encore La sortie de l'usine Lumière à Lyon, premier film tourné par les frères Lumière. Presque 122 ans plus tard, vous avez la possibilité de découvrir ou redécouvrir ces films sur grand écran dans une version restaurée. Les films muets sont commentés en voix off par Thierry Frémaux, qui les analyse et nous éclaire sur l'histoire du cinéma, des deux frères et de ses films, et met en lumière le génie de ses réalisateurs. On a tendance à dire que les films des frères Lumière étaient plutôt documentaires, à l'opposé de Georges Méliès, magicien à la base, qui à la même époque faisait des films plus fantaisistes remplis de trucages comme Le Voyage dans la Lune, avec des effets spéciaux qui personnellement m'impressionnent toujours, même plus que ceux de Valérian qui sont faits avec des ordinateurs.
Ah, je suis d'accord.
Mais ce film montre la facette artistique des frères Lumière et de leurs films. On s'aperçoit que dans ces vues de moins d'une minute, les opérateurs Lumière inventaient presque déjà tout, le travelling, les effets spéciaux, la composition des plans, la narration. Je précise les opérateurs Lumière parce qu'évidemment les courts-métrages que vous verrez ne sont pas tous tournés par les frères Lumière eux-mêmes. Ils envoyaient des opérateurs aux quatre coins du monde pour y tourner des films. Ils ont ainsi réalisé 1422 vues, comme des témoignages du monde au tout début du XXe siècle. Même si parfois j'ai trouvé les commentaires de Thierry Frémaux un peu trop denses, ce film est à voir ne serait-ce que pour ses images qui sont vraiment impressionnantes lorsque l'on pense qu'elles datent d'il y a plus de 100 ans.
Lumière dans le cadre du Ciné-Club avec l'association Oya Film, c'est ce vendredi 3 novembre dès 21h au cinéma. Il est Blade Runner 2049, Philippe, c'est pour la suite.
C'est alors pareil, de la science-fiction, hein, mais voilà, avec des effets spéciaux numériques cette fois. Un film de science-fiction américain qui a été réalisé par Denis Villeneuve. Voilà. Ça fait suite au premier film, bien sûr, réalisé par Ridley Scott, qui reste producteur quand même du deuxième volet. Hein. C'était sorti en 1982, adapté d'un roman qui raconte la vie d'un Blade Runner 30 ans après les aventures d'Harrison Ford dans la peau de Rick Deckard. Alors, je remets un peu le contexte du premier, parce qu'il est sorti il y a 30 ans, hein, mais plus de 30 ans déjà. Voilà, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça se situe à Los Angeles en 2019. Voilà, c'est un Los Angeles un peu post-apocalyptique. Hein, enfin,
c'est glauque.
Voilà,
c'est,
il pleut tout le temps, il n'y a plus un brin d'herbe, il n'y a plus rien, c'est que tout est bitumé, du ciment partout. Voilà. Et ça met en scène bien Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, un ancien policier qui va reprendre du service pour traquer un groupe de réplicants. Les réplicants sont des androïdes qui ont été créés à l'image de l'homme, qui sont utilisés souvent pour, c'est un peu des esclaves, hein, des travaux un peu pénibles, tout ce qui est dangereux, tout ça, on les envoie un peu à la guerre, dans les mines, dans les machins. Et puis, mais alors le truc c'est qu'ils ressemblent aux hommes. En fait, voilà, ils sont en les regardant comme ça, tu sais pas si c'est des vrais gens, des humains ou des droïdes.
C'est une sorte de Terminator.
Oui, voilà. Ça dépend en quel Terminator, hein, bien sûr.
On est bien d'accord.
Et donc, ils s'en sont révoltés, donc sur Mars, puisqu'on les avait envoyés sur Mars, ils se sont révoltés. Et du coup, eh ben, à la suite, ils ont été interdits sur Terre. Voilà. Et donc, Harrison Ford était chargé de les traquer, puisqu'ils étaient considérés comme dangereux, et donc il devait les traquer. Et alors, en 2049, dans ce deuxième volet, eh bien, les humanoïdes sont donc toujours ces réplicants, ont été intégrés dans la société. pour finalement bien assurer la survie de l'humanité. Voilà, parce que ça se passe de plus en plus mal hein, depuis 2019. Un des plus récents modèles qui a été conçu pour obéir, eh bien, travaille comme Blade Runner, lui. Voilà, donc ils embauchent maintenant même des androïdes pour chasser d'autres androïdes. Hein,
parce jusque-là, tout va bien.
Tout va bien. Et en fait, il essaye de il pourchasse et élimine les anciens modèles, voilà, que Harrison Ford n'avait pas réussi à tout choper. Donc, eh bien, maintenant, il charge les autres androïdes de le faire. Alors, il travaille à la police. Et eh bien, ce réplicant va trouver un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer la face du monde. Alors, du coup, bah, tout, voilà, le gouvernement, tout ça, les plus hautes instances ne veulent pas que ça s'ébruite, hein, parce que vous verrez, c'est quand même un secret, quand même, hein, ça peut tout changer. Et elles vont décider bien que c'est à ce chasseur d'être chassé, on va dire ça comme ça. Et son seul espoir est de finalement retrouver Rick Deckard, cet ancien Blade Runner, incarné toujours par Harrison Ford, hein, qui a disparu depuis des décennies. Voilà, on ne sait plus où il est, il se cache chez lui, on ne le voit pas, donc on retrouvera Harrison Ford dans ce même rôle, plus de 30 ans après. Hein, voilà. Alors il y a Ryan Gosling dans ce film, Harrison Ford bien sûr, et Jared Leto, et un film qui a reçu d'ailleurs un accueil plutôt positif hein, un peu dans le monde entier. Voilà. C'est une suite qu'on attendait quand même depuis...
Depuis 30 ans.
Depuis 35 ans.
Ah oui, tout de même.
Bah oui, quand même.
Blade Runner 2049, c'est le lundi 6 novembre à 21h en version française. Fanny, on poursuit, on finit avec Détroit en version originale sous-titrée.
Après Des Mineurs et Zero Dark Thirty, la réalisatrice américaine Catherine Bigelow, seule réalisatrice oscarisée d'Hollywood, poursuit sa plongée dans les heures sombres de l'histoire des États-Unis.
C'est vrai que c'est glauque comme film.
Le film sort 50 ans après l'une des plus importantes émeutes raciales des États-Unis qui ont eu lieu à Détroit le 23 juillet 1967. Ces émeutes ont duré 5 jours, ont causé la mort de 43 personnes, dont 33 Afro-Américains, et en ont blessé 467 autres. Le film se concentre sur le récit de l'incident de l'Atlier's Motel, bar clandestin d'un quartier noir de Détroit où a lieu une descente de police alors qu'un groupe d'Afro-Américains se retrouve pour fêter le retour de deux vétérans du Vietnam. La réunion dégénère en émeute violente et l'armée finit par intervenir. La police arrête des membres de cette soirée qui sont ensuite violentés, torturés psychologiquement et subissent une avalanche de propos racistes. Le film est très violent et il est interdit aux moins de 12 ans. Les auteurs du film ont souhaité être au plus près de la réalité en racontant cette histoire. Ils ont effectué beaucoup de recherches, se sont appuyés sur des documents juridiques et ils ont rencontré un maximum de témoins qui leur ont raconté les faits de leur point de vue avec beaucoup de détails. Détroit est tout de même critiqué pour ses oublis, notamment le fait que s'il y a eu un procès à l'issue de ces événements, c'est grâce à la mobilisation des habitants de Détroit. C'est souvent ce qui est reproché à des films qui traitent de faits réels. Il ne faut quand même pas oublier qu'il reste des fictions et qu'il n'existe pas de film totalement objectif puisqu'il y a toujours des êtres humains à leur origine et qu'ils choisissent d'aborder un sujet d'après un point de vue. En tant que blanche issue d'un milieu aisé, la réalisatrice a également été accusée d'illégitimité par plusieurs éditorialistes au moment de la sortie du film aux États-Unis, mais elle a déclaré « Suis-je la meilleure personne pour raconter cette histoire ? Non. Cependant, je suis en position de le faire alors que cela fait 50 ans que l'on attend. » Elle ajoute dans une interview au Monde « Au nom de quelle étrange disposition de mon cerveau liée à ma couleur de peau serais-je incapable de comprendre les émeutes de Détroit en 1967 et surtout de comprendre que le racisme aux États-Unis reste ininterrompu ?» Aujourd'hui, le racisme décomplexé est toujours d'actualité aux États-Unis. Les manifestations racistes de Charlottesville en août se sont produites une semaine après la sortie américaine de Détroit le 4 août.
Détroit à découvrir ou à découvrir en version originale sous-titrée ce mardi 7 novembre à 21h au cinéma LA. Merci Fanny, on se retrouve en grande forme dès la semaine prochaine.
À bientôt.
Merci Martine, rendez-vous également en grande forme dès la semaine prochaine.
Mais absolument.
Et merci Philippe.
Ben oui, tous au cinéma.
À très bientôt.
Exactement.
Tous au cinéma, il y a pas mal de choses à découvrir durant cette semaine de vacances. Demain, dans Je vous dis pas, autre sujet à découvrir, la maison départementale de l'emploi et du développement économique. Faite en 2017, c'est 10 ans, on découvre les actions à venir et les prochains projets de la MDEDE avec sa directrice Laetitia Paul. À demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale. Retrouvez toutes les émissions sur neptunefm.com.